Hier soir, nous avons abordé le sujet, c'est l'Église qui évangélise par toute sa vie. Et j'ai posé quelques jalons en vous proposant d'abord les trois buts de l'Église, les trois raisons principales pour lesquelles Dieu a créé l'Église, l'a établie sur la terre. Le premier but, c'est la gloire de Dieu. Le deuxième, c'est l'édification du peuple de Dieu. Et le troisième, et dans cet ordre de priorité, c'est l'annonce de la bonne nouvelle aux inconvertis. Et je vous ai proposé aussi ma conviction que l'évangélisation, pour être efficace, doit se situer dans le cadre de cette recherche de la gloire de Dieu et comme conséquence de l'édification du peuple de Dieu. Ce que je n'ai pas dit hier soir, mais c'est une petite remarque supplémentaire que je me propose d'ajouter maintenant, c'est que cela explique sans doute la raison pour laquelle, dans sa vie de prière, l'apôtre Paul ne prie qu'exceptionnellement pour les inconvertis. Vous prendrez sa vie de prière telle qu'il nous la présente dans les Épîtres, et à une exception près, que vous trouverez dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, quand il nous dit intercéder pour ses compatriotes afin qu'ils soient sauvés. Toutes ces prières concernent l'Église, concernent les chrétiens. Il prie non pas pour les inconvertis et pour leur salut, mais prie pour ses enfants spirituels, afin qu'ils grandissent dans la foi, parce qu'il sait pertinemment que l'évangélisation sera une conséquence d'une Église vivante où se manifeste une croissance, une maturité en Christ, une vie spirituelle intense. Ces chrétiens la rendront témoignage et l'évangélisation sera donc une conséquence de cette vie d'Église. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle il était préoccupé avant tout de cette vie-là. Nous avons ensuite proposé trois moyens principaux que Dieu met à la disposition de son Église, d'après deux textes que j'ai lus et beaucoup d'autres que je n'ai pas pu lire. Ces moyens étant d'abord la koinonia, c'est-à-dire la participation d'abord verticale à la vie de Dieu, la communion avec lui sous toutes les formes que le dialogue peut prendre, mais en particulier l'adoration, et ensuite la communion les uns avec les autres. Cette participation à la même vie de Dieu, la vie de la famille, car l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est la famille de Dieu. Nous sommes réellement frères et sœurs en Christ. C'est une réalité de l'existence et non pas seulement un titre. Et dans la mesure où nous manifestons cette vie de famille, nous sommes une démonstration de la bonne nouvelle. Nous évangélisons par notre communion les uns avec les autres, comme nous évangélisons au travers de notre communion avec Dieu. Ça, c'était donc notre thème d'hier soir, lorsque nous avons cherché à développer ensemble la notion biblique de la koinonia. Quelqu'un a posé la question hier soir, est-ce que l'Église doit alors chercher la perfection dans les lignes indiquées avant de se préoccuper de l'évangélisation? Et après réflexion, je dis bien sûr que non. Il n'est pas question que l'Église devienne parfaite avant d'évangéliser. Il est tout simplement question que l'Église redécouvre les priorités bibliques et en les redécouvrant et en les mettant en pratique, elle se mettra à évangéliser, qu'elle le sache ou non. Il me semble que l'évangélisation est inextricablement liée à notre vie de koinonia, de communion verticale et horizontale, comme aussi à la réalisation de la diaconia, ce thème que nous allons développer ce soir. C'est donc une question de mise en pratique de certaines priorités, et non pas de la recherche d'une perfection que nous n'atteindrons jamais ici-bas. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est que l'Église sera toujours imparfaite, elle sera toujours en devenir comme nous le sommes, chacun de nous pour soi-même, et c'est justement dans cette imperfection que nous sommes appelés à construire, à apporter notre contribution à l'édification de l'Église. Edgar nous a posé une question sur l'articulation entre la doxologie et l'apologétique. Quel doit être le lien entre la recherche de la gloire de Dieu et la défense de la foi chrétienne. Et nous avons eu un entretien à ce sujet après où j'ai mieux compris sa pensée que je ne l'ai comprise au moment où il nous a posé la question. Et je suis entièrement d'accord avec lui que la recherche de la gloire de Dieu doit avoir une armature doctrinale solide. Glorifier Dieu, adorer Dieu, ce n'est pas seulement un exercice sentimental, c'est confesser ce que nous savons au sujet de Dieu tel que Dieu se révèle à nous dans les Écritures. Et il y a par conséquent une dimension théologique à l'adoration. Notre adoration de Dieu doit être informée, elle doit être intelligente, elle doit être mûre, adulte et sobre. Et je crois que nous devons éviter comme un très grand danger une adoration sentimentale qui finalement devient anthropocentrique, où nous nous mettons à nous contempler en train d'adorer Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie d'exprimer, alors que la vraie adoration de Dieu est de telle nature que nous nous oublions nous-mêmes dans la contemplation de celui que nous connaissons parce qu'il s'est révélé à nous dans l'Écriture. Il y a donc toute une apologétique dans une compréhension de Dieu tel qu'il est lorsque nous l'adorons. Quelqu'un d'autre a dit, mais cette préoccupation avec la vie de l'Église, si nous cherchons la koinonia, la communion entre nous, et si nous cherchons à nous édifier les uns les autres, est-ce que ça ne va pas faire de nous une Église renfermée sur elle-même et qui n'a plus le souci de l'évangile vers l'extérieur? Et là encore, je crois que la solution, c'est d'être préoccupé de la gloire de Dieu et non pas de nous-mêmes. Ne faisons pas du nombrilisme, ne tournons pas autour de nous-mêmes, ne soyons pas préoccupés de nos expériences, de notre ceci ou de notre cela, mais cherchons vraiment la gloire de Dieu. Et ce sera, je crois, la sauvegarde qui nous gardera ouverts à envers les autres, parce que si nous voulons vraiment la gloire de Dieu, cette recherche va nous pousser vers les autres pour qu'eux aussi découvrent ce Dieu que nous avons rencontré et que nous connaissons. Ce soir, en poursuivant notre réflexion, j'aimerais développer avec vous le deuxième moyen que Dieu nous a donné, me semble-t-il, et ces trois moyens de koinonia, de diakonia et de kérugma, je les trouve dans plusieurs textes de l'Écriture, en particulier dans cette vignette de l'Église naissante qui nous est donnée à la fin d'acte 2. Vous trouverez les trois éléments présentés pêle-mêle dans ces versets qui sont d'une très grande richesse, à tel point que M. Echtler aussi a pu nous en parler ce matin et je n'ai pas du tout entendu une répétition inutile dans ce que vous avez dit, parce que je crois que c'était deux façons de taper sur le même clou et de nous orienter dans le sens des préoccupations bibliques au sujet de l'Église. Le mot diakonia dérive de diakonos, et ce mot qui est utilisé à peu près, moi je ne sais pas exactement combien de fois dans l'Écriture, peut-être 30 ou 40 fois dans le Nouveau Testament, diakonos, a été traduit de trois manières. La traduction la plus générale, c'est serviteur. Le diakonos est un serviteur, celui qui se met au service des autres, et il est synonyme de doulos, qui est le mot pour esclave. Il a peut-être un sens un peu moins absolu que celui de doulos, mais en tout cas, le diakonos, c'est celui qui sert. C'est aussi un mot traduit dans certains textes comme « ministre ». Et si vous lisez par exemple acte 6, il n'est nulle part question de diacre, mais il est question de ministère et de ministre, et c'est le mot « diakonos » ou le mot « diakonia » qui revient dans ce chapitre où ces hommes comme Étienne et Philippe sont désignés par l'Église pour seconder les apôtres et les libérer pour le ministère de la parole. C'est aussi dans certains textes traduit comme diacre. Alors ça, c'est la traduction la moins courante et la Le débat continue au sujet de Phoebé dans à la fin de l'épître aux Romains. On se demande si Phoebé est un diacre ou si elle est un ministre. Alors, je laisse à votre réflexion la bonne traduction de ce terme. Elle était diacre, je crois, de l'église de Sencré, pas très loin de Corinthe. Et c'est ainsi que diaconia aussi, qui est à son tour un substantif comme diakonos, qui est utilisé 35 fois dans le Nouveau Testament, est traduit dans les versions courantes un certain nombre de fois par service, un certain nombre de fois par ministère, et dans un sens plus restreint par diaconie. Le service, c'est donc le sens le plus large. Et puis il y a un sens intermédiaire, ministère, où il est question en particulier du ministère de la parole. Donc l'annonce de la parole sous différentes formes est conçue dans le Nouveau Testament comme une forme de service. Le service rendu, non pas avec les mains, mais avec la bouche. Et je pense que ça nous permet aussi, dans notre pensée, de réhabiliter la parole, car de nos jours, la parole a été l'objet de remarques péjoratives. On a dit qu'il faut cesser de parler, qu'il faut commencer à travailler avec les mains pour se mettre au service des autres, alors que la pensée biblique, c'est qu'il y a différentes formes de service, dont celui des mains et aussi celui de la bouche. Celui qui exerce donc le ministère de la parole sert aussi à sa façon et selon ses qualifications le reste de l'Église. Le troisième sens le plus restreint, la diaconie, c'est-à-dire un poste de service officiellement reconnu dans l'Église. Je ne pense pas que nous ayons le temps de développer cette notion ce soir. Je voudrais d'abord parler donc du service et ensuite du ministère de la parole comme étant deux manifestations de la diaconie et aussi deux moyens par lesquels, souvent à notre insu, nous manifestons l'Évangile, nous déclarons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, non pas toujours avec des paroles, mais avec une qualité de vie et notre attitude de serviteurs les uns par rapport aux autres. Vous me permettrez de lire deux textes ce soir, bien connus, mais que je les lis toujours avec une certaine émotion. Le premier se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13. Et il est question ici du Seigneur qui lave les pieds de ses disciples. Nous lirons les 17 premiers versets de Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Je crois que c'est un record dans l'Écriture, un disciple qui réussit à contredire son maître trois fois dans trois versets. Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et j'ajoute entre parenthèses et non pas la tête. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous aurions pu consacrer plusieurs études pendant ce week-end à ce texte, car il s'agit d'une leçon de choses qui charrie au moins trois vérités, sinon quatre, d'une importance capitale. Mais je voudrais me restreindre ce soir à cette notion du serviteur et à cette attitude du serviteur comme étant le critère de la grandeur véritable selon Dieu. Car il y a une véritable révolution dans le système de valeurs que Jésus vient opérer ici. Nous savons d'après l'évangile de Luc, dans le texte parallèle du chapitre 22, qu'au moment où le Seigneur pénètre dans la chambre haute avec ses disciples, il y avait contestation parmi les disciples à savoir lequel était le plus grand. Et Edelsheim, dans son livre sur la vie et les temps de Jésus le Messie, va jusqu'à dire que probablement Judas Iscariot a joué les coudes un peu plus fort que les autres, tant et si bien qu'il a réussi à s'arracher la place d'honneur à côté du Seigneur. C'est ce qui lui a valu le morceau trempé. Et Jésus donne un enseignement dans Luc 22, vous pouvez chercher ce texte vous-même, où il parle de la grandeur véritable selon le royaume de Dieu, en montrant que cette grandeur est tout autre que celle du monde, car, dit-il, les grands de ce monde dominent sur les autres, mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, mais que celui qui veut être le plus grand, qu'il devienne le serviteur de ses frères. Et ici, dans Jean 13, ce passage complète l'enseignement donné dans Luc 22, car Jésus ajoute le geste à la parole, et en l'absence des domestiques dont la tâche était de laver les pieds des convives, selon les coutumes de l'époque, et parce que les disciples ne se bagarraient pas pour assumer cette tâche, c'est le Seigneur, c'est le Maître, à la plus grande stupéfaction de ses disciples, qui se lève, qui se déshabille pour ne garder que les vêtements d'un serviteur, et qui, lui, après avoir versé de l'eau dans un bassin, se met à genoux et fait le tour de la table pour laver les pieds, non seulement de Simon-Pierre, mais encore de Judas Iscariot et des autres. Et ensuite, il leur explique le sens de ce qu'il a fait. La grandeur, donc, dans notre société se mesure par la distance que l'on réussit à monter. Pour avoir un poste d'influence, un poste d'honneur, pour être vu et connu des autres, pour dominer, pour gouverner. Et Jésus nous dit dans Luc 22, et il en donne la démonstration dans Jean 13, que dans le royaume de Dieu, c'est exactement le contraire, et que la vraie grandeur se mesure non pas par la distance que l'on monte, mais par la distance que l'on accepte de descendre pour devenir le serviteur de ses frères. Et la grandeur de Jésus-Christ se mesure par la distance qu'il a parcourue pour quitter le ciel, pour mettre de côté les signes visibles de sa gloire, pour devenir un homme, et en devenant homme, pour devenir le serviteur de ses propres disciples, en accomplissant cette besogne humble qui consistait à leur laver les pieds. Et vous et moi, dans notre imagination, nous pouvons le contempler, notre Seigneur, notre Maître, à genoux, en train de laver les pieds de chacun de ses disciples, y compris Judas Iscariot, Simon-Pierre, c'est lui, le Seigneur. C'est lui le maître, c'est lui le plus grand, le roi des rois. Et en comprenant la grandeur qui l'a poussé à descendre jusqu'à devenir le serviteur de ses frères, alors nous nous courbons dans l'adoration et nous lui confessons avec honte notre fausse ambition, notre orgueil, nos fausses valeurs de grandeur. Nous lui demandons de nous en délivrer et de nous donner à notre tour cet esprit de serviteur qui est essentiel pour que nous ayons un témoignage crédible devant le monde. Et plusieurs fois dans cet évangile, et en particulier dans deux textes, Jésus dit que comme il a été envoyé dans le monde par le Père, ainsi il envoie les disciples. Il le dit dans la prière du chapitre 17, lorsqu'il adresse la parole à son Père et lui dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et un peu plus loin, après sa résurrection, il dit aux disciples « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors si le Père a envoyé son Fils pour devenir serviteur, parce que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, il nous envoie de la même manière. Nous sommes appelés donc à assumer le rôle, le titre et la tâche de serviteur. Et j'ai souvent remarqué que c'est lorsqu'il y a cet esprit de service que le monde remarque le témoignage des chrétiens et le prend au sérieux. À ce sujet, John Stott a écrit deux ou trois pages très intéressantes dans son livre « Mission chrétienne dans le monde moderne ». Et si je lis quelques extraits, j'espère que cela vous mettra l'eau à la bouche. Il cherche à établir l'articulation entre l'annonce de l'Évangile et l'action sociale. Et il nous met en garde contre une fausse articulation. Il nous dit d'abord que certains considèrent l'action sociale comme un moyen d'évangéliser. Selon eux, annoncer l'Évangile et gagner de nouveaux convertis représente l'objectif primordial. L'action sociale est alors considérée comme un préliminaire utile, un moyen efficace d'y parvenir. Sous sa forme la plus criarde, cette conception fait du travail social le sucre sur la pilule, l'appât sur l'hameçon, tandis que sous sa forme meilleure, elle considère qu'il donne à l'Évangile une crédibilité qui autrement lui ferait défaut. Dans chaque cas, une odeur d'hypocrisie rôde autour de notre philanthropie. C'est avec une idée derrière la tête que nous nous engageons dans un programme social. Nous en faisons un moyen pour atteindre un autre but. Mais le résultat, c'est ce qu'on appelle les chrétiens de riz. Et il est inévitable si nous avons été nous-mêmes des évangélistes de riz. Il n'est pas étonnant que Gandhi ait dit en 1931 « Je considère que le prosélytisme sous l'habit du travail humanitaire est pour le moins malsain. » Gandhi Dixit. La deuxième manière de relier la proclamation de l'Évangile à l'action sociale est meilleure. Elle ne considère pas l'action sociale comme un moyen d'évangéliser, mais comme une manifestation de cette proclamation, ou tout au moins comme une manifestation de l'Évangile qui est annoncé. Dans cette vision des choses, la philanthropie n'est pas rattachée à l'évangélisation d'une manière artificielle, comme de l'extérieur, mais elle se développe comme son expression naturelle. On pourrait presque dire que l'action sociale devient le sacrement de la proclamation de l'Évangile parce qu'elle rend le message visible à la manière d'un signe. Cependant, cela me laisse mal à l'aise, car c'est faire du service une subdivision de l'évangélisation, un aspect de la proclamation. Je ne nie pas que de bonnes œuvres faites avec amour ont eu une valeur révélatrice quand elles furent accomplies par Jésus, et qu'elles ont aussi une valeur révélatrice quand elles sont accomplies par nous. Mais je ne peux me résoudre à accepter que cela soit leur seule ou même leur principale justification, car là encore, elles restent un simple moyen utilisé consciemment en vue d'un autre but. Cela m'amène à la troisième manière de définir la relation entre proclamation de l'Évangile et action sociale, celle que je crois être vraiment chrétienne. L'action sociale est une partenaire de l'annonce de l'Évangile. En tant que partenaires, elles, au pluriel, s'appartiennent mutuellement et restent cependant indépendantes l'une de l'autre. Chacune tient d'elle-même sur ses propres pieds et dans son propre droit à côté de l'autre. Ni l'une ni l'autre n'est un moyen au service de l'autre, ni même une manifestation de l'autre, car chacune est une fin en elle-même. Toutes deux sont des expressions d'un amour sans arrière-pensée. Et la thèse de John Stott dans la suite de ce texte que je ne lirai pas, c'est que par amour, le chrétien sert de la main gauche et par amour, il annonce l'Évangile de la main droite sans faire dépendre une de ses actions de l'autre. Pour ma part, je n'hésiterai pas à faire une synthèse entre la deuxième et la troisième option, parce que s'il est vrai que nous sommes appelés à servir par amour, et s'il est vrai que nous sommes appelés à annoncer l'Évangile par amour, je crois qu'il est quand même juste de reconnaître que le service est aussi une manière d'annoncer l'Évangile. Et par conséquent, tout en étant d'accord avec John Stott sur la première option, je ferai personnellement une synthèse des deux autres, parce que je ne vois pas moi-même une contradiction entre les deux. Mais l'Église est appelée à servir et c'est un impératif. Et nous sommes appelés aussi, je crois, à utiliser une imagination sanctifiée, si j'ose dire, pour regarder autour de nous dans notre situation particulière et à voir quels sont les besoins autour de nous, quelles sont les avenues qui s'ouvrent à un service désintéressé qui serait justement la manifestation de notre amour pour l'autre et de notre préoccupation de l'aider dans sa situation particulière. Certains qui sont ici ce soir se souviennent d'une jeune fille que nous avons connue dans une église de Paris qui, après avoir fait le cours complet de 3 ans dans un institut biblique de la région parisienne, a proposé ses services à l'Assemblée et on lui a demandé d'aller vivre avec une femme qui avait été abandonnée par son mari et qui essayait de faire l'impossible, de travailler, de faire marcher le foyer et d'élever ses 4 enfants. Et cette jeune fille d'abord ne voulait pas accepter cette proposition parce qu'elle disait « mais je n'ai pas fait 3 années d'institut biblique pour aller frotter le parquet et laver la vaisselle ». Mais après avoir reconsidéré la demande des anciens, elle a accepté cela et elle est allée vivre avec cette femme. Elle s'est occupée du foyer, du ménage, du nettoyage. Elle s'est occupée des enfants pendant que la mère de ses 4 enfants travaillait pour gagner sa vie. Et j'ai trouvé admirable sa disponibilité de se mettre ainsi au service d'une manière qui, de prime abord, ne lui paraissait pas du tout conforme à la formation de 3 années d'institut biblique qu'elle avait reçue. Mais le résultat de cela, c'est que 20 ou 25 années plus tard, je rencontre cette femme et elle m'a dit que ses 4 enfants sont devenus grands, ce sont tous des adultes et tous les 4 se sont donnés à Jésus-Christ et marchent avec le Seigneur. Et elle m'a rappelé la contribution, le témoignage rendu à ses 4 enfants par cette jeune fille qui, entre-temps, s'est aussi mariée et a fondé un foyer. Il y avait là, me semble-t-il, un magnifique exemple d'un service fécond qui a porté du fruit aussi sur le plan du témoignage. Et je pense à une autre église dans un tout autre contexte. Cette fois-ci, aux États-Unis, c'est une église réformée ou presbytérienne au centre de la ville de Philadelphie, se pose la question « Quels sont les services que nous pourrions rendre aux habitants de notre quartier ?» Nos membres, selon les habitudes américaines, viennent en voiture de 100 km à la ronde, mais nous avons très peu d'impact dans le quartier même. Et ils ont fait une étude de la situation dans le quartier, se sont rendus compte qu'il y avait pas mal d'habitants venant de Puerto Rico et d'autres pays où l'on parlait l'espagnol, Il y avait des ouvriers là, des familles d'ouvriers, et ils ont décidé, je crois qu'ils ont été inspirés pour cela, d'ouvrir une garderie pour les enfants des Puerto-Ricains, pour que les mamans puissent justement faire le ménage et faire leurs achats. Et à ce service-là, ils ont ajouté aussi le service de leur enseigner l'anglais à ces hispanophones. Et ce double service de garderie d'enfants et d'enseigner l'anglais a été rendu sans arrière-pensée. Et à la longue, on s'est rendu compte du fait que cela ouvrait la porte aussi à un témoignage parlé. Parce que ces Puerto-Ricains ont été tellement impressionnés par un service désintéressé, sans arrière-pensée, que cela leur a fait gagner la confiance et de fil en aiguille, un témoignage efficace a pu leur être rendu. Dans un tout autre contexte encore, je pense à l'église dont je suis membre à l'heure actuelle, où les anciens ont créé un certain nombre de commissions et cherchent à engager les membres de l'église dans ces différentes commissions pour qu'on puisse se mettre au service les uns des autres. Il y a non seulement la commission du culte, qui s'occupe justement du programme des cultes, et de chercher des prédicateurs et des présidents de culte, mais il y a toutes sortes de commissions beaucoup plus pratiques. Il y a une commission diaconale, il y a la commission de l'intendance de l'immeuble, et chaque membre de l'Église, et je vous assure que ce n'est pas facile de les recruter, parce qu'il y a une certaine inertie. Pour l'instant, je suis encouragé de voir que quand même à peu près les 50% des membres inscrits de l'Église ont fini enfin par s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces commissions, mais il y a là, je crois, la mise en route d'une notion de service dont nous verrons les fruits à la longue. Ce sont là quelques exemples qui pourraient être tirés dans tout un panier de possibilités, mais je pense que l'Église est appelée à être l'Église qui sert et à devenir un refuge d'accueil où l'on reçoit les gens, où l'on les écoute, où l'on fait preuve de compassion et d'encouragement. Et je vous assure qu'à partir du moment où l'Église ouvre ses portes et devient accueillante, tous les paumés du quartier vont venir, ce qui n'est pas sans poser des problèmes non plus. On peut aussi inscrire, je crois, dans cette notion de service ce qu'il est convenu d'appeler le ministère de délivrance. Et bien sûr, je reconnais qu'il y a différentes façons de concevoir ce ministère de délivrance. Il y a différentes façons de comprendre la présence et l'action de certains dons spirituels. Et par conséquent, je ne vais pas m'aventurer sur une glace qui devient peut-être un peu trop mince. Je ne veux pas patiner là-dessus de peur que je ne m'enfonce dans de l'eau glacée. Mais nous devons être ouverts à cet appel que Dieu adresse à l'Église d'être un lieu où la délivrance s'opère. Et si vous voulez un texte très simple, prenez celui de Romains 12, où nous sommes appelés tout simplement à mettre au service les uns des autres les dons qui ont été donnés à l'Église locale par le Saint-Esprit. Et vous verrez qu'il y a toute une gamme, toute une variété de ministères possibles. Et je crois que le ministère de délivrance s'inscrit dans la gamme. Et ces ministères devraient s'exercer avec sobriété. Il faudrait les démystifier et les démythifier et les délivrer des excès du pour et du contre. Mais je crois que Dieu nous demande de faire un pas en avant dans ce sens. Une église qui sert est une église qui a un témoignage puissant. Je pense que les missions évangéliques n'ont pas besoin de se culpabiliser à ce sujet-là. Je suis moi-même fils de missionnaire. Je suis né en Zambie et j'ai vécu toute mon enfance tantôt en Zambie, tantôt en Angola. Mes parents ont été expulsés de l'Angola par le nouveau régime après 52 ans de travail missionnaire. Et de mes propres yeux d'enfant, j'ai vu que non seulement les missionnaires, mais aussi l'Église autochtone se consacrait d'une manière tout à fait désintéressée à des services multiformes sur le plan médical. Par exemple, sur la station de mission où travaillent mes parents, il y avait un dispensaire, il y avait une maternité, il y avait une léproserie. Et pendant mes vacances, je me plaisais à descendre là-bas et à voir travailler les Africains et les Européens dans ces différents services médicaux. Il y avait bien sûr aussi l'école et il y avait d'autres possibilités. Il y avait un atelier de charpenterie et de menuiserie que mon père avait mis au point et où il formait un certain nombre d'Africains dans la charpenterie et dans la menuiserie. Et ainsi de suite, les possibilités sont nombreuses. Et sur ce plan-là, nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour cette vision qu'il a donnée à la mission évangélique depuis bientôt un siècle, de servir avec ses mains et en même temps d'annoncer l'évangile par la bouche. Mais comment tout cela peut-il s'appliquer à notre situation de post-GBUcien et plus particulièrement à la situation des GBU? Bien, je dirais que nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner une sainte imagination et de nous conduire dans une recherche active des besoins qui sont autour de nous, des possibilités de service qui sont à notre porte. J'ai parlé déjà hier soir des camps de travail que nous avons inaugurés au GBU à partir de 1956-57. C'était dès l'acquisition du chalet de la Barme que nous avons ajouté à l'éventail des camps de travail. Je suis heureux de savoir que ces camps existent encore et qu'il y en a un qui est annoncé au tableau parce que, à mon plus grand étonnement, j'ai vu Dieu agir dans ces camps de travail où nous avons accepté les uns et les autres de nous salir les mains, de nous bougner les doigts avec des coups de marteau qui manquaient le clou et de casser des lames de scie électrique, etc. Mais il s'est créé là, entre chrétiens et non-chrétiens, un esprit de corps extraordinaire, des moments de partage autour du feu le soir. Et je crois que pendant ces camps, on évangélisait sans le savoir. Et je me souviens même d'une époque où je disais au Seigneur, « Mais Seigneur, tu ne te confonds pas à notre programme parce qu'il y a des étudiants qui se convertissent au camp de travail, comme aussi ceux qui se convertissent au camp de formation des chrétiens, je ne te comprends plus. » Mais c'est par la suite que j'ai fini par comprendre. Là où vous êtes, que vous soyez attaché à une église locale ou non, que vous ayez la responsabilité de conseiller, d'encourager un GBU ou non, quelles sont les possibilités de service qui s'offrent à vous? Y a-t-il autour de vous des gens qui sont dans la détresse, des gens qui sont négligés? Vous les trouverez même dans les églises. Il y a beaucoup de détresse qui n'est pas articulée. Il y a des gens qui souffrent de solitude, de toutes sortes d'autres problèmes. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur les possibilités de service qui sont là, à portée de main. Mais ne les utilisons pas d'une manière intéressée pour évangéliser, utilisons-les d'une manière désintéressée, comme Stott nous le dit dans son livre. Je passe ensuite au deuxième sens du mot diaconia, qui est le ministère, et en particulier le ministère de la parole. Et ici, je voudrais lire un autre texte que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Et nous lirons seulement deux versets, peut-être en portant atteinte au texte, parce que je devrais lire tout un paragraphe, mais je lirai seulement les versets 11 et 12 de ce chapitre, Éphésiens 4, 11 et 12. Il, cela veut dire le Christ, ressuscité, glorifié, a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il est question ici non pas directement des charismes, mais de membres d'Église qualifiés par les dons spirituels qu'ils ont reçus et donnés par le Christ à l'Église comme des cadeaux à l'Église. Et je ne relirai pas la liste, vous l'avez devant les yeux, mais il s'agit essentiellement de ceux qui sont qualifiés pour le ministère de la parole. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur docteur, ce sont tous des membres d'Église qui prennent la parole sous une forme ou sous une autre. Et quel est le but de tout cela? Eh bien, le verset 12 nous le dit, c'est pour former tous les autres membres de l'Église en vue de l'œuvre du ministère que ceux-là doivent accomplir. C'est donc le travail, non pas par addition, mais c'est le travail par multiplication. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs docteurs travaillent de manière à se faire reproduire chez les autres et à développer chez les autres non seulement les dons qu'ils exercent eux-mêmes, mais aussi les autres dons dont il est question dans les listes parallèles de Romains 12 et 1 Corinthiens 12, etc. Mais l'idée, c'est que ces hommes forment les autres membres de l'Église pour que ceux-là, à leur tour, se mettent au travail dans l'Église. Bref, le membre passif de l'Église est inconnu dans l'Écriture. Et je ne vais pas vous lire tous les extraits de textes que j'ai ici et qui ont été présentés par mon collègue Alfred Kuhn au congrès de Strasbourg en 77, mais je crois qu'il s'agit là de la bonne exégèse de ces versets. Et c'est tout le contraire de cet autoritarisme, de ce papisme, comme quelqu'un l'a appelé cet après-midi, que l'on rencontre hélas trop souvent dans nos églises, et qui fait qu'un homme, ou peut-être une oligarchie, détient tous les pouvoirs et ne développe pas chez les autres leur propre capacité de se mettre au travail dans l'Église. C'est là que se situe, me semble-t-il, un ministère très important au niveau du GBU, qui est celui de la formation des étudiants. Je me souviens des consignes, des conseils que M. Stacy Woods nous a donnés à ma femme et moi-même avant que nous venions en France en 1952. Il nous a dit « Ne tombez pas dans le piège de vouloir faire une évangélisation de masse. Dieu donne cette tâche à d'autres. » Mais cela ne sera pas votre tâche à vous. N'essayez pas de travailler sur un front très large pour atteindre superficiellement la masse, mais contentez-vous de travailler sur un front très étroit, en profondeur, et pendant une période plus ou moins longue, avec un nombre restreint de disciples que le Seigneur vous donnera. Et je dois dire qu'au début, en tout cas, pendant la première année ou les deux premières années de notre travail à Paris, nous avons suivi rigoureusement ces conseils. Bon, il y a eu des problèmes de croissance du mouvement et de développement d'un travail administratif qui sont venus se greffer là-dessus par la suite. Et très souvent, nous nous sommes laissés noyer par des activités d'importance secondaire. Mais en tout cas, au départ, c'est ce que nous avons cherché à faire et nous avons vu comment le premier groupe d'étudiants qui est venu se joindre à nous, nous étions à cette époque-là à la rue des Orchidées, dans cette fameuse cité florale qui n'avait de fleurs que les noms, Dieu nous a donné en réponse à nos prières quatre étudiants avec lesquels nous avons travaillé pendant plusieurs mois, en cherchant à inculquer chez eux des notions d'études bibliques. Comment étudier la Bible pour soi-même? Comment préparer un plan d'études bibliques et comment diriger un groupe d'études bibliques. Et après quelques mois de cela, tout d'un coup, l'un de ces responsables en herbe nous a dit, eh bien, nous sommes prêts maintenant à inviter nos camarades d'études. Et au bout de cette première année, de 4, on est passé à 16. Et je pense que si nous avions maintenu ce taux de croissance, eh bien, non seulement toute l'université de Paris aurait été depuis longtemps évangélisée, mais probablement la France est bien au-delà. mais cette rapide croissance de la première année, malheureusement, n'a pas pu être maintenue par la suite. Les camps de formation aussi me semblent extrêmement importants et il est bon de les maintenir au programme du GBU parce que là, on peut avoir des responsables actuels ou responsables futurs sous la main pendant 15 jours, parfois davantage. Et je crois que c'est un programme à maintenir à tout prix au niveau d'un mouvement national comme le GBU de France. De même qu'au niveau international, on cherche à promouvoir de tels camps de formation, par exemple à Mittersill, au mois de juillet. Et je vous l'ai déjà dit, en 1978, j'ai eu le privilège d'aller à Yaoundé pour 10 jours de camp de formation avec des responsables venant de 14 pays d'Afrique francophone, de Dakar jusqu'à Madagascar, et c'était une expérience inoubliable. Je n'oublierai jamais la faim et la soif de nos frères responsables des GBU d'Afrique francophone qui on était debout nuit et jour, n'est-ce pas, et les heures de sommeil manquées, et à la fin de ces 10 jours, on aurait pu me cueillir avec une pelle. J'étais tout juste bon à être transporté à l'aéroport et à être parqué dans un avion pour revenir en Europe. Et sous le même ordre d'idées, j'ai déjà depuis quelques mois reçu une invitation d'aller à Madagascar au mois d'août et de passer le mois là-bas pour contribuer à la formation non seulement des responsables des GBU malgaches qui sont de plus en plus nombreux. Je crois que les GBUciens se chiffrent par centaines à l'heure actuelle à Madagascar, mais aussi pour contribuer à la formation des chrétiens dans les églises. Et j'avoue que c'est une invitation que je redoute, parce que la dernière lettre que j'ai reçue propose un tas de réunions à droite et à gauche, et je ne sais pas où nous allons pouvoir, ma femme et moi, situer nos vacances dans tout cela. Mais peut-être que j'enfonce des portes ouvertes en insistant sur l'importance de la formation, mais il y a là quelques exemples du ministère de la parole au niveau des GBU et au niveau aussi des églises. Le service, la diaconie, service et le diaconie ministère de la parole vont la main dans la main. C'est le serviteur qui accomplit un ministère fécond de la parole, et le ministère fécond de la parole est aussi serviteur de ses frères. Et je crois que dans l'exercice des dons spirituels que Dieu distribue dans l'Église par son Esprit Saint, nous devons voir non pas la possibilité de faire des expériences exaltantes, ce n'est pas là le but des charismes, mais c'est plutôt de nous mettre au service les uns des autres, et souvent dans un travail dur qui nous conduira dans le sacrifice et même dans la souffrance. En tout cas, ça a été mon expérience, c'est que le ministère d'enseignement que le Seigneur m'a donné ne s'exerce pas toujours dans la joie, il s'exerce parfois et même souvent dans les larmes et dans une souffrance profonde, mais c'est quelque chose que l'on accepte comme faisant partie du service et du ministère de la parole. Quelle sera la répercussion à long terme sur l'annonce de l'Évangile? Ce souci du ministère de la parole et de l'édification des croyants. Eh bien, c'est ainsi qu'on verra éclore et se développer toutes sortes d'activités chrétiennes. Je pense à cette église dont ma femme est membre, où le pasteur, qui maintenant est mort depuis quelques années, avait pendant 25 ans le souci de former les membres de l'église. Il a eu un ministère d'enseignement systématique, et tout au long de cet enseignement, il a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de vocations dans l'Église, des vocations pastorales, des vocations d'évangélistes, des vocations de missionnaires. Et cela au travers d'un enseignement systématique. il ne prenait pas ses sujets favoris, parce que s'il s'était limité à des sujets, il aurait projeté sur les autres ses propres déséquilibres, mais il a pris des livres de la Bible et les a enseignés systématiquement, texte par texte. Il a pris l'Épître aux Romains, et je crois qu'il a prêché là-dessus des années durant. Chaque verset était comme un tremplin pour voyager dans toute la Bible, mais le résultat, c'était, entre autres, toutes ces vocations qui ont vu le jour dans son Église. Et c'est ainsi qu'au travers d'un ministère de formation, on encourage les membres et on les qualifie pour devenir à leur tour de véritables agents d'évangélisation. C'est peut-être une de mes marottes, mais je ne m'en excuse pas. Je suis plus convaincu que jamais de l'urgence et de la nécessité absolue d'un enseignement systématique des croyants au niveau de l'Église. Nous l'avons entendu cet après-midi dans notre atelier. Souvent, le GBUcien, après la stimulation qu'il a reçue au niveau universitaire, des études bibliques, d'un brassage d'idées et d'un enseignement, et est alors déçu quand il aboutit dans une église et que là il voit soit l'absence de l'enseignement, soit son niveau qui ne le satisfait pas lui parce qu'il est habitué à toute autre chose. Tout cela nous montre combien il est important que nos églises soient, entre autres choses, des lieux d'enseignement, de formation systématique en vue du ministère et de l'engagement de chacun. Voilà donc pour le développement très rapide de cette notion biblique de diaconie, service et ministère. Une église qui sert répond à l'appel du Seigneur, accomplit sa vocation. Et si ce service est rendu d'une manière désintéressée, il n'est pas subordonné à l'annonce de l'Évangile, mais il devient, je crois, partie de cette annonce. C'est une façon d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à côté de la parole et avec elle. Et une église où le ministère de la parole est exercé pour l'édification des croyants est une église qui qualifie ses membres et qui les stimule à s'engager à leur tour dans toutes les formes d'action qui sont possibles dans l'Église et aussi, entre autres, dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous n'avons pas le temps donc d'aborder le troisième sujet qui est celui de la proclamation, le kérugma. Je voulais tout simplement vous dire que j'y crois tout autant qu'aux deux autres dimensions que j'ai développées. Si je n'en parle pas, ce n'est pas parce que je n'y crois pas. Mais je suis convaincu que si nous cherchons à vivre notre vie d'Église dans l'ordre des choses, si nous cherchons la gloire de Dieu et l'édification des croyants d'une manière ouverte, avec un esprit ouvert vers le monde, nous aurons déjà évangélisé de toutes ces manières. Et si nous pratiquons la koinonia et la diaconie, eh bien, cela débouchera tout naturellement sur le kérugma, sur l'annonce de l'Évangile. On ne pourra pas ne pas être des témoins de Jésus-Christ dans toute la vie de l'Église.